Vous savez, nous, on est des fois les chrétiens, on aime bien que le Seigneur prenne soin de nous, qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous fasse du bien. Vous savez, on est un petit peu comme ça, les chrétiens. Mais le Seigneur, des fois, il envoie des ouragans dans nos vies parce qu'il veut faire tomber des conceptions, des façons de voir. Il veut faire tomber aussi les autels et les idoles qui sont dans nos vies. Merci en tout cas pour la louange, l'équipe. Soyez bénis. J'aimerais aussi ce matin un petit peu vous partager quelques pensées qui sont sur mon cœur, que le Seigneur a déposées. Et j'aimerais commencer par une invitation ce matin à imaginer une église. Imaginez une église où il fait bon vivre. Imaginez une église où il y a beaucoup de repas communautaires. Il y a une belle communion. Mais imaginez une église qui jeûne et qui prie. Une église aussi où Dieu parle, où Dieu agit. Imaginez une église où il y a une culture de l'authenticité, où il y a une culture de la vérité. Imaginez une église où il y a des conversions, il y a des nouveaux, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles choses, il y a de la créativité. Une église où il y a de la vie. Imaginez une église, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une église qui est tournée vers l'extérieur, pas centrée que sur elle-même, sur ses besoins. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement plus des fois de besoins que nous. On est quand même par moments bien entre nous. Mais imaginez une église qui est en mission, qui va, qui comprend où elle est, qui a un rayonnement, une église, on dirait, missionnelle aujourd'hui. Imaginez une église où l'amour de Dieu règne, à la fois à l'intérieur, mais à la fois pour ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce que cette église existe, à votre avis? Elle est où, cette église? Sans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de dire Lazare, on n'y est pas encore, c'est vrai. Non, mais imaginez une église aussi où il y a une diversité culturelle, une diversité multiculturelle, des prophètes, des docteurs, des différents ministères. Et bien, cette église, elle existe et elle a existé. Et je vais vous la présenter. Voilà, elle est là, juste ici. Voyez? C'est l'église d'Antioche. Ah, vous ne me voyez pas arriver, vous pensez que j'allais dire Lazare. Vous pensez que j'allais dire Jérusalem, hein? Parce que Jérusalem, c'est là que Jésus est mort, c'est là qu'il y avait les apôtres. Eh bien non, c'est pas ça que... C'est l'église d'Antioche, ici, au nord d'Israël, voilà. Je ne sais pas à quelle ville ça correspond. Dans cette église, il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait une église en pleine vitalité, une église magnifique. Il y avait tout ce que je viens de décrire dans cette église. Et sans doute encore d'autres choses. Et dans cette église, il y avait des ministères comme Paul et Barnabas. Paul, avant qu'il soit apôtre, avant qu'il devienne, il servait juste dans cette église avec une équipe de ministères. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose dans cette église. Voilà ce qui se passe dans Acte 13. Lisons ensemble au chapitre 2. « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Saül. » pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, Barnabas et Saül. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit plusieurs choses là, dans cette église, un petit panel. C'est déjà que c'est une église qui va enfanter. On va le voir par la suite, il va y avoir des voyages missionnaires avec Paul et une équipe, et ils vont produire, ils vont développer des églises. Ils vont implanter. On voit que cette église en bonne santé, c'est une église en bonne santé qui produit la vie. Elle n'a pas juste la vie en elle-même, mais elle produit la vie. Et vous savez, la vie, c'est des enfants. C'est des bébés. C'est ça, la vie. D'ailleurs, on dit souvent, les enfants, c'est plein de vie. C'est tellement plein de vie que des fois, on se dit, ça nous casse les oreilles. Mais c'est un bon signe. C'est des bons problèmes. Et on sait qu'une église en bonne santé... Une église où il y a la vie, c'est une église qui enfante. Amen. La nature nous l'enseigne. Quand, dans la vie d'une femme, avoir un enfant, quand elle est trop jeune, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la maturité, il n'y a pas la possibilité de le faire. Et puis, quand on est trop âgé, c'est plus possible. Il y a un moment où c'est le bon moment, parce qu'il y a la vie, et c'est le bon moment pour enfanter. C'est tellement important pour une église aussi de le comprendre spirituellement. Et ce qui est intéressant ici, que dans cette église, beaucoup de choses commencent dans la prière. Tout commence, en fait, dans la prière. On voit qu'ils avaient l'habitude de prier et de jeûner. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'annonce pour jeûner et prière de notre église. Mais cette église, c'était dans son ADN de prier et de jeûner. Et voilà qu'ils sont tout simplement dans un processus normal de prière et de jeûne. Et ils ne sont pas en train de prier et de jeûner pour enfanter ou pour avoir des choses. Juste, ils sont dans un processus normal de prière. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand on donne de la place à Dieu? Quand on passe du temps à sa présence et qu'on ne veut pas faire nos projets et qu'on ne veut pas mettre nos choses et nos situations et nos désirs et nos sujets de prière, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle et Dieu donne ce qui est sur son cœur. À ce moment-là, ils reçoivent de dire « Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les appelle et pour la mission qui est sur le cœur même de Dieu. » Et voilà qu'ils sont là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont rejeûner et prier encore sur ça. C'est intéressant. Vous avez remarqué dans le texte, ils prient et jeûnaient, ils reçoivent ça. Et maintenant, ils reprient. Et après avoir prié, ils ont imposé les mains, signe d'autorité pour envoyer. Et ils ont reprié là-dessus. Donc des fois, c'est important aussi d'avoir ce discernement communautaire et ce discernement dans la prière. On reçoit des choses dans la prière. Mais Seigneur, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? Et c'est important de reprier dessus jusqu'à avoir une conviction et vraiment pour pouvoir être sûr que c'est bien de Dieu. Très souvent, il y a beaucoup de choses qui sortent dans les réunions de prière qui peuvent être des pensées de Dieu, mais des fois des pensées humaines, même des stratégies humaines. Et voilà que, du coup, cette église, elle se met en marche dans ce que Dieu a mis sur son cœur et voilà ce qui va se passer. Il va y avoir un premier voyage missionnaire, un premier envoi avec Paul et Barnabas et toute une équipe. Voilà qu'ils sont envoyés par leur église locale. Ils imposent des mains, comme j'ai dit, c'est un signe qu'une autorité est déléguée, l'imposition des mains. Ça peut être plusieurs choses dans le Nouveau Testament. Ça peut être on communique des dons, mais ça peut être aussi le signe aussi qu'une autorité est déléguée. Et ça, c'est aussi le signe d'une reconnaissance de quelque chose, d'une mise en place. Et on va le faire ce matin aussi, on va prier pour nos jeunes. C'est ça aussi ce qu'on fait aussi en tant qu'Église. On reconnaît. Je crois même que d'ailleurs que l'Église ne nomme pas de ministère. L'Église ne lève pas de ministère. C'est Dieu qui suscite, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui lève. Et l'Église, ce qu'elle fait, elle reconnaît. Ce n'est pas nous qui pouvons dire, toi tu es apôtre, toi tu es prophète. C'est les gens qui sont appelés par Dieu pour un ministère et nous reconnaissons. Nous voyons. Et là, il y a un discernement communautaire et une autorité déléguée. Et on voit que Paul, non seulement avec son équipe, il est envoyé par son église locale, mais on voit aussi qu'il adopte une stratégie réfléchie. Ah bon, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On était là, et le Seigneur agissait, tout ça, mais qu'est-ce qu'il parle de stratégie ou de réflexion? Et première pensée importante, Dieu n'oppose pas l'esprit et la stratégie. La raison, la réflexion. Le Saint-Esprit et la raison ne sont pas antinomiques. Un théologien, John Stott, qui est une figure majeure du protestantisme évangélique, va dire « La direction du Saint-Esprit ne dispense jamais de la réflexion humaine. » La foi, ce n'est pas une improvisation permanente. Surtout quand on a reçu une direction de Dieu, d'aller. On peut, et même parfois on doit, planifier, réfléchir, structurer, tout en restant dépendant de Dieu. Paul, il aurait pu rester à Antioche avec son équipe pendant un moment. Maintenant, quelle est la prochaine chose, Seigneur? Envoie-moi un ange, une vision claire, qui vienne lui parler. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il sait que Dieu lui a parlé. Il sait que Dieu veut les envoyer pour toucher, pour annoncer l'évangile. Ça, ils le savent parce qu'ils le faisaient déjà à Antioche. C'est quelque chose qu'ils pratiquaient déjà. Et on le voit dans le livre des Actes. On ne sait pas comment il a pris sa décision, mais il s'est juste mis en marche. Il a obéi à la direction de Dieu. Alors, je ne sais pas comment il a fait pour décider comment il va faire son premier voyage missionnaire. Vous savez qu'il va aller à Chypre, à différents endroits, en Asie mineure, pour ce premier voyage, qui est une région qui est la Turquie actuelle. Est-ce qu'il a discuté? Moi, je pense qu'il en a parlé avec Barnabas, tout simplement. Il en a sans doute parlé dans son église. Il y a sans doute eu un discernement communautaire, avec les responsables de leur église. Et je pense qu'il a juste aussi réfléchi stratégiquement. Bon, si on regarde la carte d'Empire romain, voilà, au nord, d'Antioche, il y a Tarse et la Cilicie. On ne voit pas très bien ici, mais ce n'est pas écrit d'ailleurs. Il y a des régions un peu romaines comme ça. Et en fait, au nord, là, il vient de là. C'est, d'ailleurs, dans son passé, avant de venir à Antioche, il avait évangélisé à Tarse. Bon, il vient de Tarse, mais il avait évangélisé à Tarse et surtout dans toute cette région. Donc, entre sa conversion et le moment où il vient à Antioche, il avait déjà annoncé l'évangile dans cette région. Donc, logiquement, il ne va pas aller au nord. Il va aller annoncer l'évangile au sud. Il va commencer par l'île de Chypre. Ben voilà, c'est à côté, tout simplement. Et autre chose aussi qui est stratégique et logique, qu'il met en place, il n'est pas parti à l'est, ni même à l'ouest. Enfin, il part à l'ouest, justement. Il n'est pas parti à l'est, ici, parce que vous voyez, le contour de l'Empire romain à l'époque, eh ben, les routes sont meilleures par là. Il y a les routes romaines. L'Empire romain est proche de son apogée. Et il y a aussi la Pax Romana, il y a une paix dans l'Empire romain, il n'y a pas de brigands sur les routes, vraiment il y a une stabilité, il y a une structuration, l'Empire romain a pacifié toute cette région, et le climat est favorable pour y aller, pour se déplacer, sachant que si on y va en équipe, avec du monde, avec du matériel, c'est vrai que c'est à réfléchir par où on passe. Et donc, naturellement, il va partir faire son premier voyage missionnaire un peu dans cette, ben, pas un peu, totalement, dans cette partie-là, dans cette direction-là. Et on voit qu'il va adopter une stratégie aussi, une stratégie qui est toute, en somme, logique. Ici, vous voyez le premier voyage missionnaire de Paul, on voit qu'il va aller dans différentes villes, et on voit qu'il va aller dans des grandes villes, comme Perge, Lystre, Iconium. Et il a cette stratégie d'aller dans les grandes villes, de démarrer quelque chose là, et qu'après, il y a des églises qui naissent, et de ce lieu-là, ces grandes villes, ces lieux-là, ces nouvelles églises vont évangéliser leur pourtour, leur rayonnement, là où ils sont. Donc il y a une stratégie qu'il met en place. Et en plus, il va aller aussi de ces lieux en lieu, d'abord dans les synagogues. Il se dit, le meilleur, je commence par la synagogue, et après, on voit que des synagogues, il va vers les païens. Et il fait ça toujours la même chose. Il commence par les synagogues, il annonce l'évangile aux juifs, et très souvent, c'est mal accepté, et du coup, il se retrouve à annoncer l'évangile aux païens, aux non-juifs. Donc on voit qu'il a une stratégie réfléchie, les grandes villes, les synagogues d'abord, puis les païens. Dieu n'oppose pas l'esprit et la stratégie. Dieu n'oppose pas le Saint-Esprit et la raison. On fait une erreur souvent en tant que chrétien. On pense que la raison est un danger pour la foi. On pense que la raison amène le doute, amène l'intelligence, nous éloigne de Dieu. C'est vrai en partie. Le surnaturel défie la raison. On est d'accord. Et c'est vrai. Mais Dieu n'oppose pas les deux. La raison peut parfois se tromper, bien sûr, et elle doit rester soumise à la révélation, mais elle peut être au service du plan de Dieu et de sa volonté. Dieu travaille aussi avec notre intelligence, avec notre raison. D'ailleurs, si Dieu est le créateur, vous êtes d'accord qu'il est intelligent, non ? Discutez quelques minutes avec un mathématicien ou un physicien quantique, vous n'y comprendrez plus rien, mais Dieu s'y retrouve. C'est lui qui a fait tout cela. C'est lui qui est à l'origine de tout cela. Donc, Dieu est intelligent. Et il nous faut comprendre cela aussi, dans les directions que nous prenons en tant que ministère, en tant qu'Église. Vous savez qu'on prie beaucoup aussi pour la direction de l'Église. On se voit avec le groupe sans nom, on se voit régulièrement, on cherche la face de Dieu ensemble. Donc, on prie, on cherche le Seigneur, mais on veut aussi s'ouvrir aux outils que Dieu a mis en place. Et en tant que groupe de direction qui cherchons la pensée de Dieu, eh ben, on prend des cours. Et on prend un cours actuellement de revitalisation d'église, avec le professeur Alexandre Antoine. Ça se passe dans le cadre du CEFOR, ici, dans nos locaux. Et c'est vrai que c'est un professeur qui a travaillé sur ces questions d'implantation, de revitalisation, et qui a des outils. Et c'est OK de faire cela. C'est OK de se dire que nous aussi, en tant qu'évangéliques, trop souvent, on pense que Dieu et ma Bible, ça me suffit. Dieu et moi, c'est bon, j'ai tout compris. Mais il y a des gens qui ont reçu aussi des choses de Dieu, des gens qui ont reçu des dons de compréhension et qui ont reçu, et soyons à l'écoute aussi de ce qu'ils ont réfléchi, écrit, vécu. C'est bon pour nous. Ce n'est pas tout apprendre, mais c'est bon pour nous et on n'a pas la science infuse. Et c'est pour ça qu'il existe même des masters en implantation, en missiologie et en revitalisation. Le master que Salomé suit actuellement à Vaud. Et merci Seigneur pour tous ces outils, Salomé, que tu vas aussi nous amener pour la construction et pour la suite de notre Église. Donc on voit que Dieu n'oppose pas ces deux choses. Deuxième pensée que je voulais vous partager ce matin, c'est que, après le premier voyage missionnaire, qu'est-ce que Paul fait ? Après avoir vu vraiment Dieu agir, des églises commencer, il revient à Antioche. Et il rend des comptes. Malgré tout ce qu'ils ont vu d'extraordinaire pendant tout ce voyage, vous relirez ces textes de Actes 13 et 14, on voit qu'il est redevable. La mission chrétienne, elle n'est jamais solitaire. On fait partie d'un corps. Et c'est un garde-fou extraordinaire pour faire la volonté de Dieu et sa mission. Vous savez, c'est contre-culturel de notre société occidentale. C'est tellement contre-culturel. On est tellement individualiste. On est tellement « moi je sais » ou « je ressens ». On est aussi dans le ressenti. Et on voit que le livre des Actes souligne que Paul, il travaille en équipe. Il travaille en équipe. On le voit. Il est bien sûr avec Barnabas, mais il y a Jean-Marc. Il y a du monde autour de lui. Et c'est un travail en équipe, fondamental. Même si c'est Paul qui ressort dans les textes, mais il y a un monde fou autour de lui. Et on voit que Paul, il reste soumis à une communauté. Malgré qu'il est apôtre, qu'il est dans cette mission, dans ce qu'il vit de manière des choses extraordinaires, peut-être des choses encore plus extraordinaires que ce qui se vivait dans son église, il reste soumis à sa communauté. Et voilà qu'il revient et il est dit qu'ils avaient été recommandés, ça revient, recommandés par cette église d'Antioche. Et une chose aussi importante que Paul fait, c'est qu'il célèbre ce que Dieu a fait. Après leur arrivée, ils réunirent l'église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ce n'est pas Paul qui est mis en avant là, c'est son équipe et surtout Dieu. Ce que Dieu a fait et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Voilà l'attitude d'un ministère. C'est célébrer ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres autour de lui. C'est de se réjouir de ce que Dieu fait, pas de ce que je fais, mon ministère. Oh, on a quand même fait ça, notre équipe. Ou moi, j'ai fait ça. Oh, si je n'avais pas été là. Paul ne met jamais en avant son ministère. Et il s'efface. Combien de fois notre nature humaine nous pousse au contraire? Combien de fois, dans le domaine spirituel et des dons et de l'action de Dieu, l'orgueil n'est pas loin? Mais avec un vernis chrétien, bien sûr. Mais l'orgueil n'est pas loin. Vous savez, quand il ne se passe rien, il n'y a pas de risque d'orgueil. C'est justement quand il se passe des choses, des grandes choses dans nos vies, que l'orgueil n'est pas loin. Et l'antidote, mes amis, pour vraiment faire l'œuvre de Dieu, parce que l'orgueil, vous savez ce que ça fait? Ça éloigne l'action de Dieu dans nos vies. Pour que Dieu puisse continuer à agir, l'antidote, c'est d'être redevable. C'est d'être soumis, c'est d'avoir une communauté, c'est d'avoir une redevabilité dans votre vie, même dans votre vie spirituelle personnelle. Avoir cette redevabilité. Trop de ministères qui étaient fructifiés au début se sont séparés et ont porté moins de fruits parce qu'ils n'ont pas pratiqué cette redevabilité. Dieu fonctionne comme ça. Dieu travaille par des autorités qu'il a mises en place. Dieu travaille d'une manière Et c'est comme ça. Et on ne pourra rien y faire. Malgré les dons que Dieu vous donne, malgré la puissance que Dieu vous donne, ça fait partie de comment Dieu a instauré les choses. Et au-delà de ça, nous ne voyons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Nous sommes limités et nous avons besoin de notre entourage qui vit avec nous, qui nous connaît, qui peut dire sur notre vie quelque chose. C'est fondamental. On ne se connaît pas vraiment soi-même, totalement. Et c'est peut-être facile pour Paul d'aller dans ces lieux, de vivre plein de grandes choses, il est peut-être même adulé. C'est facile d'être qu'il veut, de cacher des choses. Mais dans son église, là où il a travaillé pendant des années, et ils le connaissent. Et ils vont dire, oui, bon, c'est bien, tu as fait toutes tes choses là-bas, mais nous, on te connaît, Paul. Nous, on est en relation avec toi. C'est tellement important de comprendre ça, mes amis. Tellement comprendre. Ça nous garde vraiment de beaucoup de choses. Et Dieu fait ainsi. Dieu travaille ainsi. J'aimerais continuer. J'avais d'autres choses, mais je pense que je vais reprendre plusieurs points avec vous. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment plusieurs clés pour notre Église dans ce que je vous partage ce matin, que j'aurai l'occasion de reprendre. Mais poursuivons notre lecture dans le livre des Actes, Actes 15, verset 35. On voit que, suite à ce premier voyage, Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » On voit que Paul veut juste continuer à revoir ce qui s'est passé. Il n'y a pas un projet particulier. Il y a juste une petite logique de se dire, on va aller voir nos amis, ce qui s'est passé dans ces différentes villes où Dieu a commencé des églises, des œuvres, des choses qui ont commencé. Donc, logiquement, même réflexion, même stratégie, et on va revoir la même région. Rien de nouveau. Le deuxième voyage de Paul, quand Dieu ferme des portes et élargit l'horizon. On voit que Acte 16, voilà ce qui se passe. Donc, peut-être je vais vous montrer la carte, on va voir comme ça. Donc, le deuxième voyage, donc le premier, c'était, il était passé par Chypre, il était remonté à Derbe, Lystre, Iconium, puis après il était revenu comme ça, d'accord ? Donc là, il passe par Tarse, c'est un petit peu différent, mais le but, c'est de revoir les églises où il était, Antioche, et puis de redescendre et de faire ceci. Mais on voit qu'il y a un petit changement là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on va lire ensemble au verset 6. « Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie. » Donc, ce n'est pas la géographie du canton de Vaud, vous avez remarqué. Hein, on ne s'y retrouve pas trop, mais c'est des régions romaines, vous savez, à l'époque, qui étaient nommées comme ça. « Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. » Un Macédonien, debout, le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours !» Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous y appelait à y annoncer l'Évangile. Donc si on reprend la carte, on voit qu'il se passe ceci. Ils prennent la route et voilà qu'ils visitent les différentes églises et voilà qu'ils veulent bifurquer par l'Asie, par le Sud, par là où, logiquement, il devrait reprendre le chemin. Mais qu'est-ce que dit le texte ? Empêché par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, mais dans ce qu'ils ont vécu, peut-être des circonstances ou des choses, ils ont discerné, c'était le Saint-Esprit qui les empêchait de descendre au sud. Alors ils se disent, si Dieu ne veut pas qu'on aille au sud, on va obéir. Alors ils veulent aller au nord, la Bithynie. Mais ils sont aussi empêchés. Donc vous voyez, du coup, ils tracent tout droit. Il trace tout droit jusqu'à Troas. Qu'est-ce qu'on fait là, Seigneur ? Et à Troas, Paul a un songe qui lui dit, ok, il voit un Macédonien, un habitant de cette région, qui lui dit, écoute, viens à notre secours. Et on voit qu'ils traversent, et ils vont faire Philippe, et puis vous connaissez, et Corinthe, la fameuse église de Corinthe, Athènes, et ils vont repartir et revenir. Une porte fermée peut être une direction divine, pas un échec. Un auteur connu, F.F. Bruce, un Écossais mondialement connu pour ses travaux, va dire « Dieu guide Paul autant par des refus que par des visions. » Amen. Incroyable comment Dieu ici prend la main dans ce voyage. Quand quelque chose ne marche pas forcément comme on l'a voulu, c'est pas que c'est un échec ou un manque de foi, mais c'est parfois une redirection. Et à ce moment-là, dans cette redirection, parce qu'ils ont écouté le Saint-Esprit, à Troas, voilà qu'ils reçoivent cette pensée, ce songe, cette vision, cette action de Dieu, qui est un tournant historique dans l'histoire, puisqu'à partir de ce deuxième voyage missionnaire, l'Évangile entre en Europe. C'est la porte de l'Europe. C'est un passage décisif vers la Grèce et vers les différents. Et c'est comme ceci que l'Évangile va atteindre l'Europe. Dieu dépasse toujours nos plans. Même les plans les plus réfléchis, les plus intelligents et qui ont marché. C'était quoi le risque pour Paul ? Ça a marché une première fois, je vais refaire la même chose. Et c'est un grand risque, parce que ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut faire à ce moment-là. Et qu'est-ce que peut devenir la raison ? Peut devenir un piège pour notre vie. Parce que, comme le dit N.T. Wright, Paul ne cherchait pas l'Europe, Dieu y pensait déjà. C'était sur le cœur de Dieu. Et Dieu peut utiliser nos habitudes, nos projets, pour nous amener plus loin que prévu. Et c'est là qu'il faut discerner le surnaturel dans nos vies. En résumé, Paul est guidé par la raison, il est guidé par les circonstances, il est guidé par la révélation et il est guidé par le discernement collectif d'une communauté. La volonté de Dieu et ce qu'il veut faire se discerne rarement par un seul moyen. C'est l'ensemble qui donne une direction claire. Parce qu'il nous faut rappeler une chose, et une chose dans nos réalités, dans notre discernement pour notre vie, pour ma vie personnelle ou pour la vie communautaire de l'Église, c'est que Dieu est souverain sur la mission. L'Évangile, il va arriver en Grèce, puis à Rome, puis il va toucher le monde occidental. Parce que Dieu écrit l'histoire du salut bien au-delà de ce que nous percevons sur le moment. Et c'est grâce à l'obéissance de Paul et de son équipe, bien sûr, pas à pas, un pas après l'autre, qu'il va y avoir un impact historique et qu'on en parle aujourd'hui, en 2025 encore, de ce que Paul a fait dans cette petite région du monde il y a 2000 ans. C'est extraordinaire. Parce qu'il a obéi, il ne pensait pas qu'on allait reprendre ça comme exemple dans les livres de missiologie, dans les enseignements ou dans les églises. Il a juste fait la volonté de Dieu et il s'est laissé diriger totalement par lui. Amen. Et c'est ce que j'ai envie de vous laisser ce matin. Plusieurs pensées. Planifie. Utilise ta raison. Utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée, mais reste flexible. Obéis, même quand ce n'est pas clair, c'est flou. Vous savez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'un ange vous dise. Il n'y a pas besoin de faire un programme d'évangélisation et d'avoir une formation pour le faire. Il faut juste le faire. Et des fois, on se dit, ah, mais j'attends une conviction. J'attends un ressenti. J'attends une émotion. J'attends une parole, une visitation angélique. Mais fais-le, obéis, juste parce que Dieu le dit. Accepte les détours. Accepte que ça ne se passe pas comme tu as prévu. Parce que Dieu utilise cela pour te parler. Reste attaché à ton Antioche. Reste attaché à ton Antioche. Redevabilité, soumission. N'oublie jamais qu'il y a ce discernement collectif. C'est un moyen que Dieu utilise pour te parler. Malgré toute ton intelligence, toute ton expérience et toute ta capacité, tu n'as pas la ligne directe avec Dieu. Je suis désolé. Et j'aimerais vous dire ce matin que même quelqu'un qui avait la ligne directe avec Dieu, quelqu'un a utilisé quelqu'un pour lui parler, c'est Moïse. C'est dit que Moïse, il n'y avait personne sur la terre après lui qui a eu la communion qu'il a eue avec Dieu. Dieu lui parlait comme Dieu parle à son ami. Et pourtant, Dieu ne lui a pas dit qu'il était en pré-burnout. Dieu ne lui a pas dit qu'il était en train de s'épuiser. Il a utilisé son beau-père, qui venait de faire une formation sur le burn-out, et qui avait vu qu'il y avait 2-3 signes avant-coureurs qui étaient en train de se manifester chez Moïse. Il s'est dit, « nomme des chefs de 100, des chefs de 10, des 50, etc. » Vous connaissez l'histoire. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a obéi. Pourtant, pourquoi Dieu ne lui a pas dit directement ? Parce que Dieu veut nous apprendre à nous soumettre les uns aux autres. Dieu veut nous apprendre, Dieu veut travailler par le corps, tout simplement. Et tu ne peux pas faire l'économie de cela. Et enfin, on continue, entre dans le surnaturel de Dieu. Détache-toi de ta raison, de tes habitudes. Plus que jamais, nous avons besoin de l'action de Dieu. Vous savez, j'ai remarqué que dans les générations passées, ils avaient compris cette culture de la foi et du surnaturel. Vous savez pourquoi ? Il y avait moins de formation, il y avait moins de connaissances, on avait moins accès qu'aujourd'hui. On voit que la génération d'avant, ils y allaient. Celle du XXe siècle, celle des années 50, des années 60, des années 70. Mais aujourd'hui, en 2025, on a des masters, des doctorats. Toute la jeune génération est surformée. Ils ne trouvent même pas de travail avec toutes ces formations qu'ils ont. On a l'IA qui va sans doute tout nous expliquer. Mais malgré tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait, ça peut devenir un obstacle pour entendre la voix de Dieu. Et nous avons besoin du surnaturel de Dieu pour faire son œuvre. Amen. Nous avons besoin de visitations angéliques, nous avons besoin de songes, nous avons besoin de voir des choses que l'IA ne nous donnera pas. Même la meilleure IA du monde ne vous la donnera pas parce que c'est Dieu. Et ça, c'est le surnaturel. D'ange, de vision, de direction surnaturelle pour nos vies. Et nous avons besoin de nous souvenir que Dieu est souverain. Il voit plus large que toi. Tu n'es qu'un rouage dans le plan de Dieu. Je l'ai déjà dit ça, je l'ai déjà enseigné ici, mais tu n'es qu'un rouage, désolé pour ton estime personnelle, tu n'es qu'un rouage dans le plan de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta parole qui est la vérité, merci pour cette parole qui nous façonne, merci pour Paul, ses premiers disciples, cette première église, Antioche, où on a dit pour la première fois le nom de chrétien. Merci de nous façonner à ton image. Viens au travers de cette parole nous corriger. Peut-être que c'est dans un domaine ou l'autre on a besoin d'être corrigé. Peut-être ce matin, certaines personnes disent « mais je fonctionne trop par ma raison, je veux entrer dans le surnaturel ». Puis certains sont tellement dans le surnaturel qu'ils ont besoin de juste redescendre. Alors Seigneur, viens corriger, viens redéfinir, comme Neil le disait dimanche passé, nos conceptions de toi, nos façons d'agir, et viens redéfinir nos vies, notre cœur. Et nous prions pour chacun ici présent, viens nous parler dans la direction, dans la saison dans laquelle on est, et aussi en tant qu'Église, je prie pour les responsables, l'équipe que nous formons, vient nous diriger, que nous ne tournions pas en rond dans le désert pendant 40 ans, mais que nous soyons entrés et avoir des percées comme Paul a eu des percées et a touché le monde occidental. Et nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Gloire te soit rendue. Amen.